Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Et ce soir, ici au studio de Transistor, on se retrouve pour parler de la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, de retour au cinéma 10 ans après Under the Skin. Avant cela, néanmoins, petit passage par les réactions de nos auditeurs et de nos auditrices, aux pauvres créatures qui n'ont laissé décidément personne indifférent, en plus de réaliser l'un des meilleurs démarrages podcast de l'émission, hein, comme quoi le putaclic en promotion, ça marche. Rosalie nous dit que l'ennui qu'elle a ressenti pendant ce film était tel qu'il faudrait la payer pour qu'elle y retourne. D'un autre côté, selon Élise est plutôt d'accord avec moi sur pas mal de points. Le sexe comme principal mode d'émancipation, ça va 2 minutes. Lise a eu du mal à voir du féminisme dans ce film. La politisation socialiste et Spinoza, c'était clairement pour faire joli, notamment parce qu'être une prostituée spinoziste, ça lui paraît un peu contradictoire. À voir si on estime que la prostitution est une diminution ou une augmentation de la puissance d'agir. En revanche, continue-t-elle, elle me trouve un peu dure sur l'esthétique du film et trouve que le mix gothico-postmoderne fonctionne bien, ajoutant qu'elle a bien aimé voyager dans cet univers, où d'ailleurs elle était frustrée de voir que le voyage était rapidement interrompu par des scènes où Emma Stone est enfermée dans une chambre et fait des folies de son corps pour satisfaire les fantasmes des hommes. D'un autre côté, Zoé s'étonne en majuscule que je n'ai pas aimé. Et puis je vous fais part d'un commentaire de Théo sur le site de Transistor, transistor.fr, où effectivement vous pouvez commenter ou bien vous pouvez nous contacter directement via les réseaux sociaux. Félicitations pour vos émissions, je prends beaucoup de plaisir à écouter vos analyses et commentaires. Chaque semaine, j'espère égoïstement que vos choix de films coïncident avec les miens. Vous êtes juste, sans prétention et curieux, merci Théo. Et si mon statut de simple auditeur ne me donne pas spécialement le droit de distribuer les bons et mauvais points, je me permets tout de même de le faire, je trouve les commentaires de Lucie intelligents et originaux. Ce commentaire n'est pas totalement désintéressé puisque j'en profite pour vous conjurer de corriger le mixage des émissions, notamment la balance entre les intervenants qui peut parfois malheureusement diminuer le plaisir d'écoute. Donc en lisant intégralement ce commentaire, je prends des risques et j'assume la responsabilité de corriger cette balance au mixage tout à l'heure. Enfin voilà, Lucie, si tu nous écoutes, tu n'es pas avec nous ce soir pour cause du Festival Champs Libres, mais bravo à toi. Bravo à toi. Voilà, un feuilleton et une émission qui ne laisse pas de vous faire réagir, on vous en remercie vivement. Et puis maintenant, on lance cette émission à proprement parler avec Thomas, Antoine et Nathan. Bonsoir à tous les trois. Pour ce 15e épisode, on passe à notre débat critique de la soirée. Sans plus attendre, penchons-nous sur La Zone d'intérêt, le nouveau film de Jonathan Glazer, à la filmographie brève, hein, c'est son 4e film, mais marqué par des succès d'estime et de public, et puis à la carrière surtout dirigée vers le théâtre ou encore le clip, hein, pour Thom Yorke ou encore Massive Attack. Dans les salles obscures, on avait quitté Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson en créature d'un autre monde venue séduire et éliminer les hommes. C'est dans un endroit bien différent que nous le retrouvons. Il pose sa caméra, ou ses caméras plutôt, on pourra en reparler, dans la maison de famille la maison de la famille Huss, qui jouxte le camp d'extermination d'Auschwitz, dont le père, donc Rudolf Huss, qui est interprété par Christian Friedel, est le commandant. Jamais le film ne montrera l'intérieur du camp, qui ne sera jamais que dessiné en silhouette au-dessus des murs fortifiés qui bordent la maison. On entend beaucoup plus qu'on ne voit des bruits d'usine, des cris atroces, des coups de feu. On devine, en fait, l'esprit du ou de la spectateur-spectatrice se retrouve dissocié entre les images de la vie quotidienne de cette famille bourgeoise banale et fière de sa petite maison et de sa petite vie, surtout incarnée par la mère, Hedwig, l'impériale Sandra Hüller que vous reconnaîtrez d'Anatomie d'une chute au moins. Et puis entre donc ce décalage et ce qui se passe hors champ, déferlement ininterrompu de violence, d'extermination, de crémation. Je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai vu le film deux fois, et deux fois j'en suis ressorti avec le sentiment d'avoir vu un chef-d'œuvre. Je trouve à titre personnel que c'est un film absolument magistral, réussi, très bien joué et qui ne veut pas rien dire. Il y a beaucoup, beaucoup à en dire et j'espère que vous aurez été convaincus aussi. On commence avec Nathan.
Écoute, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est personnellement une énorme claque et un gros, gros choc de cinéma comme j'en avais pas eu depuis un bon moment à ce point-là. Moi j'avais vu aucun film de Jonathan Glazer jusqu'à présent, même... Under the Skin, je ne l'ai toujours pas rattrapé. La zone d'intérêt, c'est vraiment un gros choc. C'est un film qui est, comme tu l'as dit, magistral et qui est extrêmement, extrêmement puissant. Et ce, de bout en bout, sans quasiment aucune baisse de régime, quoi. Et c'est une leçon de cinéma, quoi, sur le point de vue, la focalisation, genre cette zone à laquelle on s'intéresse et qui est, enfin, dans une perspective quasi anthropologique, hein, et qui passe notamment par... les procédés de filmage, tout simplement, que tu as assez justement introduit avec cette... ils ont filmé vraiment dans la maison, en mettant ses caméras sans caméraman. Et Sandra Hüller qui disait que c'était que ça changeait forcément radicalement sa façon de jouer, puisqu'elle était seule dans cette maison avec le poids de l'histoire sur les épaules. Et c'est quelque chose qu'on sent, quoi. C'est un film qui est hyper pesant. Et c'est vraiment une manière hyper singulière de s'intéresser à cette zone qui n'est pas celle à laquelle la plupart des films qui se concentrent sur l'Holocauste s'intéressent. On va y revenir, je sais pas si j'y retournerai tout de suite, mais en tout cas, j'ai eu la même sensation de voir vraiment un très très grand film et extrêmement important à plein d'égards.
Merci Thomas.
Oui, dur d'y retourner tout de suite. Honnêtement, quelle prouesse, parce que, enfin, moi j'étais parti voir à la séance, voir Jonathan Glazer le jour de la sortie, la séance de 10h du matin, et c'est vrai que quand je suis sorti, mon cerveau était complètement déconnecté. J'ai failli vomir, je me suis mis à pleurer aussi, mais ça après coup. Mais bon, ça mis à part, c'est vrai, parce que moi je trouvais que c'était vraiment une odyssée sensorielle aussi, le film de Glazer, l'ouverture qui est tout simplement magistrale.
Ouais.
Tout simple, dans le noir, enfin dans Under the Skin, on commençait dans le blanc avec une hyper visibilité, même on terminait avec un fond blanc qui aveuglait complètement, et là c'est totalement l'inverse, enfin on fait le négatif cette fois-ci, on commence dans le noir avec vraiment énormément de sons, une musique qui, je trouve, mérite d'être saluée parce que la composition est juste incroyable, et aussi le design du son de manière générale est vraiment surprenant, enfin surprenant, il nous prend de A à Z. Et donc c'était vraiment avec cette odyssée sensorielle que moi j'ai trouvé que j'étais emporté. Et surtout, ce que je trouve extrêmement intéressant dans le film de Glazer, c'est que dans la question de la représentation de l'Holocauste et même des camps de concentration, il renouvelle complètement la façon dont les cinéastes ont de le faire. C'est-à-dire il n'y a pas de reconstitution, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de reconstitution des camps, pas de reconstitution du moins à l'intérieur, pas comme on peut le faire dans la liste de Schindler de Spielberg, et qu'il taclait aussi un angle mort des fameuses controverses, du moins pour les cinéphiles, entre Lanzmann et aussi Godard d'une certaine manière, même si c'est une sorte de fausse querelle, où Godard dans les histoires du cinéma montre que le cinéma ne peut que se racheter parce qu'il a failli en ne captant pas les camps de concentration quand ils étaient encore présents. Et Lanzmann qui lui exige que la seule manière d'en parler, c'est par le témoignage et par la parole, parce qu'on ne va pas venir reconstituer des camps de concentration, on peut uniquement passer par la parole et le témoignage, ce qu'il fait magistralement d'ailleurs dans son film Shoah. Et là ici, ce qui était incroyable, c'est qu'on passe uniquement avec le son, c'est uniquement un arrière-plan, on sent que les personnages en sont conscients et sont rappelés à leur réalité uniquement par... les bruits de torture ou même uniquement simplement les actions que font les différents commandants SS, et c'est c'était juste facile, enfin peut-être on y reviendra, mais je trouvais que le fait d'attaquer la représentation des camps sur le son, c'était un coup de génie parce que on est même plus dans la question maintenant de reconstitution ou seulement de qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, même s'il le tacle ensuite, mais enfin c'était juste magistral.
Merci Antoine.
Comment ne pas être d'accord avec tout ce qui a été dit, enfin pour une fois on est vraiment tous d'accord, dans la même intensité, je pense, pour le saluer, c'est magistral en tout point de vue, novateur comme bah, comme tu l'as dit, sur la manière de filmer et d'appréhender le génocide. C'est un film qui est dissonant, non pas d'un point de vue négatif, enfin je parle comment on l'interprète en tout point de vue, que ça soit dans la musique et que non, simplement le quotidien de ces personnes qui sont parfaitement conscientes de ce qu'elles font, mais se trouvent des préoccupations étonnantes, du moins pour la femme, du moins. Donc j'ai oublié le nom, Hedwig, la reine d'Auschwitz.
C'est glaçant.
Hein. Ouais, c'est glaçant. non, mais c'est un film qui ne peut pas, je pense, quand on a connaissance de l'Holocauste, ne peut pas ne pas déranger, enfin ne pas émouvoir. Je pense à cette scène où ils sont dans la piscine et on voit la fumée du train qui passe, et de se dire que derrière il y a potentiellement 2000 personnes qui sont entassées pendant que des enfants jouent dans une piscine, ça procure des pensées extrêmement dérangeantes. Et cette dissonance là est au cœur du film et je la trouve absolument brillante parce qu'elle est très bien filmée et très bien mise en scène.
Je vous rejoins, mais et tu parles de dissonance, je trouve que c'est très très juste parce que on a il y a tout dans ce mot, effectivement, autant les effets de contrepoint à l'image que les dissonances précisément sonores, tout le travail sur le son que tu évoquais, Thomas. J'ai été vraiment tout de suite pris par cette vraie ouverture du film, qui est vraiment une ouverture opératique, c'est-à-dire vraiment un écran noir. C'est-à-dire que je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème en fait au tout début, c'est-à-dire qu'ils vont, voilà, il faut pas que vous soyez surpris par cet écran noir de quelques minutes, et ça indique une immersion complète dans une autre dimension. Ça fait entendre, et de même à la conclusion, les rares musiques du film qui sont cette espèce de cœur de voix métallique, déshumanisé, qui fait un peu cœur de fantôme en fait, et qui est véritablement terrifiant.
Ouais, je suis d'accord, le générique de fin, ouais. Je suis resté jusqu'au bout, je aussi, fais jamais ouais. ça, mais la musique des enfers, quoi, vraiment.
Ça indique
et au début et à la fin que le travail du son va être et a été capital dans le film, et puis il va s'opérer cette dissociation petit à petit entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, quoi. Parce que tout à coup, donc après ce premier cœur de fantôme là, on a donc au début des bruits inattendus d'oiseaux, et puis hop, une scène champêtre, alors que le spectateur ou la spectatrice est conditionné par tout ce qu'on a entendu autour à s'attendre à un film sur le génocide. Et là, c'est vraiment un film qui est même d'ailleurs un film, parce qu'on travaille, là on parle du son, mais sur l'image, un film en couleur, vraiment, mais alors des couleurs qui sont, je trouve, des couleurs très contemporaines, qui cèdent absolument pas aux mornes, aux grisâtres, et il fait très beau, hein, la plupart du temps. Les couleurs du jardin sont magnifiques, ça commence par un pique-nique au bord d'une rivière, et c'est très très perturbant, ce décalage, par rapport à nos représentations habituelles et attendues du génocide. Et puis plus largement, ce travail sur l'image, ce sont des plans construits de façon purement géométrique, hein, des lignes droites, perpendiculaires, où rien ne dépasse. Et même lui, Rudolf Höss, il y a un plan où il s'intègre parfaitement dans ces lignes géométriques, avec sa cravate, ses bretelles, son pantalon, quand il fume sa cigarette là, soir. Donc c'est une géométrie quasi maniaque, en fait, et qui est un peu une espèce de Wes Anderson vicié, inquiétant. Cette comparaison m'a vraiment marqué quand il y a un plan en plongée avec la caméra posée juste au-dessus de la table sur laquelle sont posés le plan clair et net des chambres crématoires que les deux représentant de Topfunzen commente au commandant, qui est d'ailleurs, je trouve, aussi un plan très fort, puisqu'il y a une réponse claire aux négationnistes et aux pseudo-arguments de la non-existence
c'est fort. Enfin, moi je trouve que la force du film aussi, c'est de commencer avec cette ouverture et cette clôture en disant il n'y a rien à voir, parce que quand même on est plongé pendant 5 minutes dans le noir dans une salle de cinéma, on attend à voir quelque chose normalement sur l'écran, mais non, là la seule chose que nous voyons, c'est nous-mêmes, l'endroit où nous nous trouvons, cette salle noire où en fait juste on est vide, on est face à quelque chose de bloqué, on ne peut pas voir au-delà, et qu'il y ait cette hyper visibilité ensuite, comme tu disais, au niveau des que l'on montre aussi les plans, et avec ces caméras qui sont apparemment, je pense que si je ne me trompe pas, Jonathan Glazer a imaginé un tournage où il tournait avec plusieurs caméras en même temps, basé sur les fonctions de la télé-réalité, en fait. Il voulait se fonder des manières de tournage de télé-réalité. Donc en fait, du coup, il y a une hyper-visibilité ensuite au moment des couleurs, comme tu disais, avec les lignes. Et en fait, ces différents contrastes sont tout simplement saisissants, parce que d'une certaine manière, même s'il y a plein de caméras, d'une certaine manière, il n'y a plus rien à voir parce que tout est anesthésié par la composition, tout est anesthésié par une surcouleur et c'est vraiment une vie qui est trop parfaite. Et même dans les personnages, ça s'en ressent. Il y a cette. Et c'est quelque chose dont on parle assez peu en fait dans les films sur le génocide, c'est cet engouement pour la colonisation vers d'autres terrains, vers d'autres espaces. Enfin, ce qui est impressionnant, en fait, c'est à quel point la vie est tellement idyllique pour ces personnages-là, pour les commandants SS, qu'ils ne peuvent que vouloir y vivre. Enfin, c'est leur vie de rêve. Enfin, c'est vrai que c'est un paysage champêtre, bucolique. Enfin, c'est vrai que les forêts de bouleau autour de Auschwitz sont des forêts. Il y a vraiment un retour, une forme de retour à la nature, mais complètement vicié parce qu'il y a à côté de ça ce camp qu'on ne veut pas voir.
Ouais, et c'est même tellement télé-réalité en un sens, tu l'as dit, que il y avait effectivement plusieurs caméras qui tournaient en même temps, dont certaines qui étaient cachées aux yeux des acteurs. Donc ça change complètement leur manière de jouer et bah, conséquemment notre perception de spectateur à nous. Et tu l'as dit, Thomas, il y a effectivement pas de représentation et je pense que vraiment c'est un vrai geste extrêmement fort de cinéma, ce film, dans le sens où c'est, je pense, le contrepoint le plus pertinent à la théorie de Lanzmann et à sa filmographie. On voit jamais un seul détenu du camp, on voit jamais l'intérieur du camp. Et même le personnage principal, même les personnages principaux ne voient à aucun moment de détenu. En tout cas, pas à l'écran. On a un plan serré sur le visage de Huss à un moment, mais... Qui on ne voit pas ce qui l'entoure, ce qu'il regarde, et d'ailleurs il n'a pas l'air de le regarder. Et le seul moment où on voit l'intérieur du camp, c'est dans cette scène finale, et qui pour le coup va complètement dans le sens de Lanzmann. Donc ça combine vraiment toutes ces théories de la manière la plus, enfin éthiquement la plus juste, je trouve. Et cette scène finale, enfin je pense qu'il faut vraiment pas la divulgacher, mais c'est vraiment un coup de génie de mise en scène, quoi. Dans une espèce de
chant
contre chant. Une espèce de chant contre chant à travers les époques. Enfin, c'est glaçant et c'est incroyable. Avec ce personnage qui est d'une telle inhumanité que quand il vomit enfin après toutes ces horreurs, il vomit rien.
Oui, il vomit. C'est ça. C'est absolument fabuleux.
C'est vraiment le détail complètement glaçant. Et en fait, tout le film te dit que la Shoah, l'extermination des Juifs, n'est pas le sujet du film. Et que dans le film, elle n'est même pas un sujet. Elle est éludée, ignorée, elle est plus que tolérée, elle est bel et bien intégrée par tous à leur quotidien. Et à partir de là, tout ce qui importe vraiment, enfin tout ce qui nous importe à nous quand on va voir ce film, dont on sait qu'il est sur la Shoah, et tout ce sur quoi on voudrait se concentrer, et ce sur quoi tous les films qui concernent ce sujet se concentrent, tout est hors champ. On a seulement au lointain des cheminées qui ne cessent de déverser une fumée qui va du jaunâtre au noirâtre et qui crame complètement le reste du cadre. Il y a la tour qui est quasiment constamment là et qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. Les murs de barbelés qui sont les mêmes que ceux du jardin, enfin comme une simple clôture. Là. Et ouais, il y a une espèce d'atmosphère de fin du monde, mais à laquelle tous les personnages semblent demeurer complètement indifférents. Et surtout, complètement indifférents au son. Puisque voilà, vous avez tous parlé du travail sur le son qui est vraiment, vraiment incroyable. Et d'autant plus incroyable qu'en fait, il y a un moment où... c'est tellement radical que non seulement la musique est profondément angoissante, mais même cette musique est suppléée par des bruits de machinerie, des cris, des tirs quasi permanents. Et ce qui est terrible, c'est que même en tant que spectateur, au bout d'une demi-heure, on finit presque en fait par en faire abstraction. Quoi. C'est un fond sonore et ça sert parfaitement le propos et la subversion hyper dérangeante du film. Parce qu'à un moment, on est complètement tétanisé de se rendre compte que nous-mêmes, on s'est plus ou moins habitué à ces sons. Et le seul son qui semble les déranger, c'est le cri du bébé de la famille qui contraste avec les cris de douleur, de souffrance qui proviennent de l'intérieur du camp et qui eux n'ont aucune réponse. Et il y a notamment deux scènes qui sont vraiment terrifiantes dans ce sens-là. C'est celle où Sandra Hüller se maquille et où vraiment c'est vers le début du film, donc on n'est pas encore habitué à ce fond sonore constant, et c'est le seul bruit qu'on a à ce moment-là, et elle est complètement indifférente, elle se maquille avec un rouge à lèvres qu'elle vient de trouver dans la poche d'une fourrure qu'elle a pris à une juive détenue. Donc. Et puis celle où aussi l'enfant joue et où on entend des tirs derrière, enfin, c'est absolument terrible, c'est vraiment très cruel. Et puis le cadre est décrit comme paradisiaque par les personnages, ils se battent quand même pour rester dans cette maison, hein, pour continuer à y vivre, surtout le personnage effectivement de Sandra Hüller. Mais la réalisation met jamais de distance par rapport à tout ça, et ça renforce l'horreur. Enfin, je trouve que vraiment la force du plan fixe a jamais été aussi bien exploitée que dans ce film. Il y a vraiment cette neutralité froide, méthodique, quasi scientifique du film, dans une composition vraiment malsaine, minutieuse du cadre. Comme vers la fin du film, il y a un très bref grand angle qui est archi oppressant, à un moment où il est question pour une des seules fois aussi clairement de la solution finale, hein, quand il est dans une salle d'opéra ou je sais pas, et il dit que la seule chose à laquelle il est capable de penser, c'est comment gazer cette salle le plus vite possible, et on a ce grand angle quasiment subliminal qui est horrible. Donc, ouais, et les seuls moments où, ouais, c'est autant d'éléments auxquels eux sont habitués, auxquels on s'habitue aussi, et c'est terrible, et qui en même temps, du coup, nous mettent profondément mal à l'aise, et encore, enfin, j'ai honte de l'euphémisme du mot, quoi, et ça nous met toujours mal à l'aise, malgré les efforts qui sont évidemment vains et fins du film, de les reléguer au second plan, parce qu'il y a des moments où l'horreur du monde extérieur s'infiltre dans cette bulle, mais la caméra a tôt fait de les fuir, comme si elle cherchait à éviter de laisser la moindre ombre au tableau s'immiscer. Il y a notamment, vers le début du film, un plan tellement bref qu'il en devient quasi subliminal, sur les bottes du commandant qu'on lave, et dès que le rouge du sang apparaît dans la bassine à l'écran, cut, on passe au plan suivant tout de suite. Même chose plus tard quand on voit des cendres dans le lavabo. Enfin, c'est vraiment terrible... Enfin, c'est glaçant, quoi, cette manière dans le film dont la mise en scène essaie constamment de reléguer au second plan quelque chose qui pour autant est omniprésent pour nous spectateurs, quoi.
Oui. Bah, du coup, j'avais parlé de la dernière scène, mais on va éviter.
Ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment
mais
une surprise.
En tout cas, c'est vraiment le lien parfait entre la fiction et ce qui s'est vraiment passé. Pour nous rappeler justement, parce que moi, comme Nathan, à des moments, je me suis laissé absorber par le film dans le sens où je pensais à leur quotidien, quoi. Et après, d'un coup, on se rappelle qu'est-ce qu'on regarde. Et là, je trouve que c'est vraiment la force du film. C'est à la fois d'en parler sans en parler, parce que vous disiez au début, quoi. C'est aussi banal que très puissant, quoi.
Ouais, je pense qu'il faut tout de même qu'on évoque cette dernière séquence. Parce que. Moi, il y a quelques...
Passer si vous ne voulez pas savoir.
Mais... Non, non, mais je ne vais pas spoiler. Je vais faire mon mieux pour ne pas spoiler. Je vais juste donner les éléments. clé pour en parler. Vas-y. Donc on a dit, ça on l'a déjà dit, qu'il y avait un étalage entre les différentes époques à travers le montage et entre aujourd'hui et du coup le commandant. Et ce que je trouvais incroyable dans ce moment-là de faire dialoguer ces deux époques-là, c'est que d'une certaine manière, ça enlevait, ça coupait l'herbe sous le pied à toutes les théories et à tous les arguments qui disent que les nazis étaient dans un système, il n'y avait pas forcément de culpabilité parce que le système de normes s'était déplacé sur autre chose. Non, en fait, de faire dialoguer ce qu'on voit aujourd'hui des camps et ce personnage-là qui en quelque sorte regarde dans le passé à travers le montage, comme t'es genre, dit un peu trop là, ça faisait un lien direct entre ce qu'on savait aujourd'hui et le présent en fait de ces personnages-là. D'une certaine manière, en fait, il y avait déjà une forme de culpabilité latente, même si elle n'était même pas formulée par les personnages, et c'est ça que je trouvais qui était incroyable. Et surtout, ce qu'on voit dans les chambres à ce moment-là, il y a un aspirateur. Voilà, je n'en dis pas plus. Objet éminemment industriel aussi. Il y a encore des objets éminemment industriels encore aujourd'hui qui aspirent une poussière. Enfin, maintenant, c'est la poussière de qui quand on vient nettoyer des chambres qui ont participé à Auschwitz. Moi, je me suis demandé, dans juste l'action que l'on voyait de nettoyer où tout est bien présenté, où tout est si bien présenté, tous les vestiges de l'Holocauste sont si bien présentés, en fait, avec une forme assez propre au musée. D'une certaine manière, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui de la façon dont on représente, l'Holocauste ? En fait, tout est si bien cadré, tout est si propre, en fait. Alors ça, c'est la vision que nous avons aujourd'hui, en fait, juste des chambres à gaz. C'est-à-dire, le musée que l'on va voir à Auschwitz, c'est un musée qui a été pensé, qui a été en quelque sorte esthétisé, et qui, en fait, d'une certaine manière, est assez particulière et assez glauque, et de faire un parallèle entre les deux, j'ai trouvé que ça remettait à la fois en question cette question de ils n'ont pas de culpabilité, ils étaient pris dans un système industriel où en fait chacun était déresponsabilisé, et nous aujourd'hui, comment est-ce que nous présentons les vestiges de l'Holocauste et les vestiges de la Seconde Guerre mondiale avec des musées qui sont extrêmement bien, qui sont pensés pour montrer en fait cette fois-ci-là.
Ouais.
Voilà.
Non, je suis d'accord. Bon, donc
c'est, j'ai essayé de pas spoiler, peut-être que c'était moins clair, mais voilà.
Non,
pardon, mais je pensais qu'il fallait vraiment en parler.
Enfin, oui, que... peut-être juste pour finir sur ça, c'est un truc que tu dis très bien, c'est que c'est, pas... c'est vraiment... et c'est là que le film va beaucoup plus loin que là où il aurait pu rester, quoi. C'est que c'est pas vraiment... enfin, c'est vraiment pas juste une simple représentation de la banalité du mal, quoi. Ça, ça va au-delà de ça. Et cette dernière scène-là, je trouve, c'est vraiment le point d'orgue qui donne tout, tout son écho et au film, et c'est absolument glaçant.
Mais surtout qu'en plus, dans Écorce de Georges Didier Berman, qui a été publié en 2021, je crois, il revient, enfin c'est lui, il a beaucoup écrit sur les quatre seules photographies que nous avons de Auschwitz, de l'intérieur d'Auschwitz, et en fait il revient du coup sur le camp, l'endroit du musée, et il se rend compte que des quatre photos, il n'y en a que trois qui sont présentées, dont la plupart sont rognées pour en fait montrer exactement ce que l'on veut voir, et ce qui pose vraiment beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'on a enlevé la photo qui est floue. Et on enlève aussi tout ce qui n'est pas en quelque sorte spectaculaire. Donc même la mémoire que l'on cherche à faire aujourd'hui d'Auschwitz obéit au régime du spectaculaire. Ouais. Et ce n'est pas non seulement à ces photos qui ont été faites dans l'urgence, avec du flou, évidemment qu'il y a une photo, on ne va rien voir, parce que c'est des gens qui l'ont caché ensuite dans une sorte de seau et tout. Donc vraiment, ça, je pensais que ça remettait aussi en question le regard qu'on portait sur le passé, et que vraiment, sur le point de vue de la mémoire, le film se place aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est sûr. Non, et puis, enfin, je veux dire, vraiment, c'est un film qui, et je le dis vraiment sans aucun second degré, qui donne vraiment beaucoup à réfléchir, et même dans vous parliez de la façon dont c'est filmé tout à l'heure, le fait qu'il ait placé des caméras dans toute la maison, ça donne vraiment, c'est vraiment un dispositif de surveillance qui va contemporanéiser, si ce mot existe, vraiment notre regard sur les cadrages. Ouais, le fait que les cadrages soient toujours les mêmes, qu'on passe d'un plan à l'autre comme d'une caméra de vidéosurveillance à une autre, ça les permet de les saisir de façon anesthésiée, sans sentiment, dans l'incongruité de leur quotidien, qui sont observés. Et en fait, cette réflexion contemporaine, elle actualise vraiment ce que le film nous montre. C'est pareil avec les plans filmés en caméra thermique de nuit, qui vient appliquer notre imagerie contemporaine de la guerre à la situation de la Deuxième Guerre mondiale et des camps d'extermination, qui questionne aussi la place de l'œil du spectateur. Mais et puis moi je veux revenir aussi sur l'exceptionnalité du jeu des acteurs et des actrices et de l'actrice, enfin surtout, et même des dialogues qui laissent assez fascinant, comme il n'y a aucune réplique marquante du film quasiment, à part celle que vous avez donnée de comment il cherchait à que la seule chose à laquelle il peut penser dans une salle avec un haut plafond, c'est comment la gazer,
ou la reine de Auschwitz aussi.
Oui, ou la reine d'Auschwitz, c'est vrai, mais dans l'ensemble tout est juste horriblement normal. Tu t'en viens à prendre, c'est tellement horrible dans ce que ce soit normal, t'en viens à prendre en horreur la discussion sur la météo, sur le trajet, sur la chaleur, que eux, s'ils parlent à sa femme comme il fait, c'est rapport administratif en fait, sur le même ton, et c'est ça qui est le pire aussi, c'est que sa tâche est vraiment montrée comme un travail. Il y a aucune haine viscérale des juifs qui tordrait son visage quand il en parle, c'est juste une réunion de bureau pour lui, c'est juste clair, la déportation, extermination des 700 000 juifs hongrois. C'est un bon père, c'est un bon fonctionnaire qui mène une vie bourgeoise avec son épouse, et c'est ça qui est absolument terrifiant, je trouve.
Ah mais la visite de la mère aussi.
Ouais.
La visite de la mère
qui s'en va d'ailleurs, elle pour le coup.
Mais... qui est elle. Ouais. Oui, qui montre cette banalité. Elle vient visiter sa maison comme d'habitude, et en fait, on voit la pression que met le personnage de Sandra Hüller pour montrer qu'elle a un bon logique. Enfin, c'est incroyable qu'elle vit une magnifique vie et tout. Et la mère qui arrive et qui commence à parler des fameux rideaux qu'elle a pas réussi à voler à une juive. Enfin, d'une manière assez banale. Enfin, moi, je trouvais que c'était.
Elle a eu aux enchères, c'était ça.
Qu'elle a même pas réussi à avoir aux enchères. Enfin, c'était. Ouais. Non mais je trouvais que cette séquence-là en particulier était glaçante, parce que c'était glaçante de banalité, parce qu'en fait c'était une visite comme une autre, elle vivait dans un endroit comme un autre, et surtout en fait il fallait que, en fait elle essayait de garder ce jardin d'Éden en quelque sorte, il fallait qu'elle le garde en place.
Ouais, et puis cette normalité elle est telle que, tu disais qu'il n'y avait pas de ligne de dialogue ou de réplique vraiment notable et qu'on retenait dans le film, et c'est vrai à tel point que celle qu'on retient le plus, parce qu'elle détonne complètement par rapport au contexte, c'est celle où on voit qu'à côté de ça, le personnage de Huss est capable d'une sensibilité de fou. Il caresse les chiens quand il les voit passer, il est complètement gaga, il fait une allocution sur ses lilas.
C'est les lilas, oui.
Voilà, les lilas qui risquent de pourrir si on les coupe pas bien. C'est un truc de fou, quoi. Et à côté de ça, effectivement, tout le reste bascule dans une espèce d'habitude, parce que personne ne... ne mouffent, quoi. Même les enfants paraissent complètement insensibles à la violence qui les entoure, au point que le chien de la famille est le seul être vivant du film auquel la caméra accorde une place à l'écran,
ouais,
qui réagit au son et donc à ce qui se passe. Et c'est une opposition flagrante à la passivité de tous et à la monstruosité des autres personnages, quoi.
Ouais, complètement. Moi, je trouve qu'elle fait un... Mais, alors là, juste, Thomas, je reviendrai sur la question de la mère de Hedwig Huss. Elle est venue effectivement passer l'été à Auschwitz, mais elle finit quand même par partir, oui, parce que l'odeur, oui, est insupportable. Et là, tu disais que c'était un film sensoriel, effectivement. Enfin, on n'a pas l'odeur au cinéma, mais là, le spectateur comprend, parce que, bah, évidemment, bah, on ne l'a pas. Donc, on se rend compte que l'odeur de chair humaine brûlée, quand même, doit empester ce jardin et que ceux qui vivent dans cet Éden vraiment vicié ont juste choisi de faire comme si de rien n'était, comme ils font... qui choisissent de faire comme si de rien n'était avec le bruit. Mais après, à mon avis, effectivement, la fuite de la vieille, ça dit pas ça, enfin de la bonne mère, ça dit pas que du tout qu'elle condamne. Enfin, elle dit, non, ça dit juste son choix de fermer les yeux globalement, je trouve plutôt. Et après, sa prise de conscience de ce qui se passait véritablement derrière le mur, parce que je pense qu'elle s'attendait pas. Enfin, je veux dire, elle dit, oh bah, la dame chez qui je travaillais, donc j'ai pas pu prendre les rideaux, elle doit être derrière. Elle lui juste la question. Mais je trouve qu'effectivement les acteurs et les actrices sont exceptionnels dans leur jeu, qui témoignent juste, qui font le choix de ne plus voir, de ne plus sentir, de ne plus entendre. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est un moment d'une sortie, il y a Huss qui signale à son fils le cri du héron, que lui il perçoit et que le spectateur ne perçoit qu'à grand peine. Enfin, moi j'ai pas entendu le cri de l'oiseau au milieu des cris des déportés qu'on fait avancer vers le camp ou ailleurs. Et là, je trouve que si, enfin, il y a que le petit garçon qui semble encore faire attention au bruit et aux machines. On peut d'ailleurs supposer son traumatisme quand il imite le bruit des machines, où il entend les gardes crier ou quoi. Enfin voilà, qui est juste. Enfin, tu parlais aussi de la scène où il joue et il y a le bruit. Il y avait le bruit qui va, enfin voilà, se mettre en parallèle avec le grand qui regarde les dents en or dans son lit avant de dormir. Enfin, c'est tout est atroce en fait.
Et moi, je me faisais la réflexion. Tu parles du jeu, ça devait être abominable à jouer, quoi. Enfin, ça a dû être une expérience pour les acteurs, mais
je sais pas s'ils avaient les bruits quand ils jouaient.
Non, je sais pas, mais même parce que.
Oui, ça dit oui.
Enfin, d'être là, puis de jouer ça, et en plus d'être seul dans ce lieu chargé d'histoire, juste avec la caméra, donc ils avaient même pas forcément conscience qu'elle les filmait. Ça devait être j'ai vu une interview de Sandra Hüller où on en parle un tout petit peu, et ça devait être une expérience lourde, quoi.
Ouais.
Oui, non, c'est
ok. Non, effectivement,
on se pose énormément de questions sur la provenance des objets aussi, à chaque fois. Enfin, tu sais, les dents en or.
Ouais, ce qui est accessoire, ce qui ne l'est pas.
On se rend compte.
On entend vraiment la voix aussi d'un déporté, là, dans le générique, je sais pas si vous avez. C'est sa vraie voix, lui, de la personne qui l'a composée, donc. Donc ouais, qui questionne, tu sais pas ce qui est un accessoire pour le film, ce qui a été, enfin bref, ouais, c'est ce qui rajoute au côté glaçant du film. Hein.
Non, mais surtout, en fait, c'est une vie qui est fondée uniquement sur le pillage des juifs aussi. Enfin,
oui.
c'est les jouets des enfants, le son menton aux fourrures, ça fait prendre conscience de ça. Et moi, ce que je trouvais aussi super intéressant dans ce film-là, c'est que certes, on avait la vie extérieure du camp. Parce que les images en négatif aussi, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre, à quoi elle correspondait, qui était cette personne. En fait, qui fonctionnait et tout, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'est les personnages, c'est la vie des Polonais qui sont autour, et qui montrent aussi que les gens qui habitaient autour d'Auschwitz étaient conscients et savaient ce qui se passait. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour vivre aussi quand on sait qu'il y a un camp d'extermination pas loin, quand on sait qu'il y a des travailleurs forcés, est-ce qu'on les aide, est-ce qu'on les aide pas? Comment est-ce qu'en fait on fait pour composer avec ces dynamiques-là? Il y a d'un côté les officiers, mais il y a aussi les civils qui doivent vivre dans un territoire qui a été annexé et où finalement en fait ils doivent vivre avec une forme de la pire chose d'inhumanité juste à côté de chez eux, quoi.
Ouais. Je suis d'accord sur le pillage. D'ailleurs, si ça se trouve, je me suis posé la question, si ça se trouve ce n'est même pas leur maison en fait. C'est très probablement, vu le temps très court sur lequel ils ont habité, 2 ou 3 ans, que ce soit une maison pillée. Okay,
ça a l'air si ordonné que je pense qu'elle a été construite avec...
C'est vrai que...
Je me suis posé la question.
De son jardin, mais elle dit qu'ils ont dû tout refaire en arrivant.
Ouais.
Donc,
C'est des parasites en tant que tels qui vont jouir d'un territoire qui n'est pas le leur et qui vont jouir. Et d'ailleurs, aussi, je me suis dit, mais si ça pousse aussi bien, c'est peut-être dû aux cendres aussi. Et d'une manière aussi tragique.
Il y a un moment où il
pleut des cendres.
Engrais, oui.
Ouais. Ouais. On le voit mettre des cendres.
Parce qu'effectivement,
c'est un engrais après, on
ne
sait pas d'où elles viennent.
Il y en a plein d'autres comme ça, des petits passages dans le film qui...
Oui.
Qui rappelle l'horreur, en fait.
Exactement. Et je trouve, enfin, cette attention au détail est vraiment, vraiment intéressante. Mais parce qu'effectivement, il y a des moments où, bah, c'est vrai que si on fait le choix de ne rien voir, on ne voit rien. Et enfin, il faut vraiment, il y a des patrouilles d'avions dans le ciel à un moment. Il y a effectivement le sang sur les bottes. Après, moi, je trouve qu'il y a peut-être un ou deux trucs qui sont pas nécessaires. Je trouve qu'à un moment, il trouve un bout d'os parmi les cendres qui se déversent dans la rivière où jouent les enfants. Et là, je fais partie des quelques trucs où, que j'ai trouvé pas nécessaires ou de trop. On va dire parce que ça aurait été juste. Enfin, on voit suffisamment la rivière se colorer, plus après effectivement les enfants se laver et lui se rincer des cendres. Qui c'est ouais. Et puis, mais là pour revenir effectivement à ce que tu disais, Antoine, sur la façon dont ils sont appropriés, je trouve que et ce que tu disais aussi Thomas, elle incarne vraiment elle plus que lui. Et ce que ce film aborde très bien, l'idée du Lebensraum. C'est vraiment un espace où vivre. Il y a une corporéité, je trouve, que ce film apporte à ce qu'on a sur nos manuels d'histoire, que comme sur une carte globalement avec l'Allemagne en 1933, l'Allemagne en 1944, enfin avec les frontières telles qu'elles ont été, elles ont été modifiées sous le règne de Hitler. Hein. Et c'est effectivement un phénomène de colonisation qui est.
Ça a poussé vers l'Est.
Oui, hein. C'est ça, exactement. Et on l'aborde rarement, en fait, comme la colonisation qu'elle est, qui peut résonner. Enfin, et là, on revient sur cette actualité du film avec ce qu'on entend des pratiques russes en Ukraine aussi. Et c'est. Et j'ai trouvé ça vraiment très fort, effectivement. Et c'est vraiment elle, pour le coup, qui l'incarne encore plus que lui, parce que lui est vraiment plus dans son rôle de fonctionnaire. Elle est exceptionnelle, je trouve, en tant qu'actrice, dans le rôle de cette bourgeoise glaçante qui peut vraiment, d'ailleurs, tout à coup, devenir une furie, un dragon sur les domestiques qui sont, des esclaves. On sent tous les non-dits qu'il y a à sentir dans la prostration de leur corps aux domestiques, dans ce qu'on estime être des... On devine plutôt être des dispositions extrêmement codifiées. Il n'y a jamais un merci, il n'y a jamais rien. Et nous, on est juste là à l'observer, elle, sans empathie pour elle, ni quand elle pleure, ni quand elle rit, parce qu'elle a visiblement des émotions. Hein. Elle rigole en pensant à un souvenir qui, je pense, dans un autre film, aurait pu être drôle, effectivement, un monsieur qui joue de l'accordéon à des vaches. Et ni quand elle pleure à l'idée de devoir partir. On l'observe et on est vraiment mal à l'aise, tu disais, Nathan, dans cette position de voyeur, en fait, hein, tout simplement. Pendant tout le film.
Oui, c'est tout simplement incroyable, oui, les ruptures de ton dans le personnage et dans le jeu de Sandra Hüller. On a l'impression que c'est juste une femme au foyer. Au début, elle donne cette impression-là d'une femme au foyer qui suit son mari et qui le suit complètement, jusqu'au moment où il y a le moment où elle dessine une frontière claire entre elle et son mari. Et là, on comprend à quel point l'enjeu de la colonisation est aussi fort. Enfin, c'est un endroit, ils ont tout construit, ils veulent être là, ils ne regrettent pas leur vie. Enfin, ils la veulent absolument, cette vie-là, en fait. Et ça, c'est fou parce que le film est sorti mercredi, mais mardi, France 2 rediffusait Shoah. Donc, j'ai revu certains extraits. Il y a ce témoignage en particulier qui est assez fascinant, où c'est la femme d'un instituteur allemand, où ils sont venus s'installer aussi en Pologne, et qui raconte en fait la façon dont elle est venue s'installer. Et alors elle commence à dire, oui, alors quand on est arrivé, tout était cassé, il faisait froid, il y avait une pauvreté pas possible, des choses que je n'avais jamais vues, on a dû tout refaire, on a dû les aider, on a dû tout reconstruire. Et il y a Claude Lanzmann derrière qui lui demande, mais c'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous êtes venu faire ça? Alors si c'était une vie qui était assez terrible, où il y avait le froid et tout, elle dit, non, mais parce qu'on avait l'impression de construire une nouvelle société, une nouvelle chose. Et on voit dans son visage, on voit dans la façon dont elle interagit, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'elle parle, et on sent qu'il y a une forme de nostalgie qui est encore présente dans cette fureur de la colonisation. C'est un mauvais jeu de mots avec fureur, pardon, mais donc c'est quelque chose qui est tellement tellement poignant et qui juste est dans une sorte de forme de retour, une sorte de vengeance sur une société, c'est-à-dire ils pillent tout aux juifs, ils prennent tout pour essayer de se reconstruire eux-mêmes avec une forme de richesse matérielle, et qu'en fait cette richesse matérielle n'arrive pas à la quitter, et c'est uniquement ça en fait qui les fait tenir et qui fait tenir ce système-là finalement. C'est l'enrichissement, c'est avoir une vie confortable et c'est avoir absolument tout ce dont on rêvait, ou elle le répète plusieurs fois, je pense.
Ouais, et juste peut-être pour conclure sur un truc plus large, c'est que le film prend pas forcément de parti sur ça, à tel point que moi ça me paraissait inconcevable, mais c'est sur la question de... Enfin, qui est une question historique. Du coup, moi j'ai regardé un petit peu après, et alors, paraît-il que Hedwig Huss n'était pas au courant que c'était un camp d'extermination à côté duquel elle vivait, et que son mari, en fait, lui-même a dit dans ses mémoires et dans ses aveux et ses interrogatoires pendant son procès, et elle l'a confirmé ensuite, qu'il lui mentait à elle et à toute sa famille sur la nature exacte de ses activités, et que, ouais, elle vivait dans cette espèce de... Enfin, qu'elle ne savait pas, et que le jour où elle l'a appris, elle a décidé de ne plus dormir avec lui et de dormir dans deux lits séparés. Or, dans le film, ils dorment dans deux lits séparés. Et du coup, ça pose un peu cette question de est-ce qu'à ce moment-là, bah, du coup, elle sait, mais ça n'a pas l'air de franchement la perturber, quoi. Ou est-ce que, du coup, on se passe avant, ou est-ce que le film prend le parti de dire qu'elle était au courant tout du long, ce qui, honnêtement, me paraît quand même plus probable. Enfin, voilà, il y a aussi cette question-là qui n'est pas forcément centrale, mais qui, historiquement, est assez importante et qui est aussi une des conséquences du film.
Ouais. Ouais. Eh ben, merci à tous les trois pour notre discussion plus que débat hein, sur la zone d'intérêt. Jonathan Glazer est en salle depuis le 31 janvier. Offrez-lui tout le succès qu'il mérite en courant au cinéma. Et avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. On commence avec Antoine.
Alors moi, c'est pas très original. Et je vais même vous demander de payer, en fait. Il y a le hors-série des Cahiers du cinéma sur David Lynch, qui est bon, c'est un de mes réalisateurs favoris. Voilà, je suis un Lynch Zouz, hein, voilà. Du coup, je vous le conseille parce qu'on a, voilà, on a des interviews, on apprend des choses, et c'est toujours, si vous n'avez pas vu les films de Lynch, allez-y, courez. Vous ne serez pas déçus.
Merci beaucoup. Le conseil de Thomas.
Moi, c'est, je vais rester du coup sur le... Peut-être, bon, aller voir Shoah, qui est encore sur France TV. Acheter David Lynch, parce que aussi, voilà, c'est génial. Mais pendant le Champs Libre Festival, il y a le film de Kelly Reichardt qui va être diffusé. Et vraiment, je ne peux que... Si vous ne connaissez pas cette cinéaste, enfin, elle est incroyable. Elle avait fait First Cow il n'y a pas longtemps. Elle a fait Showing Up aussi l'année dernière, qui franchement était juste, moi je trouve, qui était un des meilleurs films de l'année. Et donc, si vous ne connaissez pas bien et que vous voulez peut-être plus approfondir l'univers de Kelly Reichardt, allez-y, vraiment. C'est Old Joy qui passe samedi à 18h, donc je ne peux que vous encourager parce que c'est vraiment une des cinéastes américaines qui renouvelle le cinéma états-unien d'une manière splendide et qui mérite bien plus de reconnaissance que celle qu'elle a actuellement.
Merci beaucoup, le conseil de Nathan.
Oui, alors moi je voulais donner un conseil peut-être un peu plus léger. Je voulais vous conseiller L'acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension, qui est un court-métrage disponible en replay sur France TV, qui est nommé au César dans la catégorie meilleur court-métrage documentaire. Je fais des guillemets avec les doigts parce que c'est pas vraiment un documentaire. Mais c'est donc co-réalisé par Raphaël Quenard et Hugo David. Et c'est génialissime. C'est un court-métrage donc de 25 minutes qui suit Raphaël Quenard sur le tournage de Chien de la casse, donc réalisé par Hugo David, et qui cherche à comprendre et définir son propre métier pendant 25 minutes, donc à grands coups de proverbes, de métaphores foireuses et de phrases à la Michael Scott en mode « Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going ». Pardon pour l'accent, mais voilà. Donc c'est une réflexion méta et longtemps assez chaotique, mais in fine très belle de par sa naïveté. Sur le cinéma et le métier d'acteur, c'est très quenardien. Voilà, il est tellement partout en ce moment et on est tellement vite à court d'adjectifs pour le décrire que faut commencer à normaliser l'usage de ce mot. C'est entre un épisode de The Office, ne serait-ce que par le côté du coup documentaire, et un film de Quentin Dupieux dont il combine l'humour cringe et absurde. C'est un peu un Joey de Friends mais remixé à la sauce The Office. Et en plus, le sous-titre détourne celui d'un de mes films préférés, mon deuxième film préféré, si je suis précis, parce que c'est très précis dans ma tête, Birdman, d'Iñárritu. Mais en remplaçant donc l'ignorance qui caractérisait le personnage de Michael Keaton, qui évoluait par son apprentissage permanent, par l'incompréhension, qui définit ici cet acteur complètement con, barré, à côté de la plaque, de bout en bout, qui ne comprend rien, que personne ne comprend, mais qui, contre toute attente et à l'instar du personnage du film d'Iñárritu, va mobiliser cette vertu insoupçonnée pour prendre tout le monde de court en s'illustrant comme acteur, et pas des moindres. C'est donc campé par un Raphaël Quenard, qui a donc co-réalisé le court-métrage, et qui est vraiment hilarant. C'est le film le plus drôle que j'ai vu cette année. Et voilà, je vous le conseille. J'avais écrit des répliques, mais en fait, je pense que je vais pas les dire parce que c'est juste trop drôle. Donc, moi, j'ai vu ça ce matin à 5h du mat. Il y a un moment où il est torse nu, il est en train de dire des grandes réflexions sur le métier d'acteur, et il y a un mec de la prod qui débarque, qui lui dit « Il y a la prod qui veut que tu remettes ton t-shirt. » Et il est là Mais non, enfin pourquoi ? Enfin, c'est juste, il est complètement, il est hyper drôle. Et je l'ai vu à 5h ce matin dans mon train pour revenir à Lyon et c'était une vraie bouffée d'oxygène. Donc vraiment, je vous le conseille très très chaleureusement.
Eh ben super, merci beaucoup. Enfin mon conseil à moi, il est pas très original, mais ce sont les deux rétrospectives qui viennent de commencer à l'Institut Lumière et qui vont courir jusqu'en avril, en plus de la deuxième partie de celle sur Spielberg qui avait eu lieu sur le dernier trimestre 2023. Là, je vais vous parler d'abord de celle que l'Institut consacre à une actrice, qui est toujours au moins aussi intéressant qu'un réalisateur ou une réalisatrice, en l'occurrence la grande Anna Magnani, dont une douzaine de films sont projetés, tournés avec les plus grands réalisateurs italiens de l'époque, hein, mention spéciale et personnelle pour La Mamma Roma de Pasolini, où elle interprète une mère qui veut tout sacrifier pour son fils, mais que son passé d'ancienne prostituée vient rattraper dans les quartiers populaires et difficiles de Rome. Splendidement filmé par le réalisateur, qui excelle aussi dans ce réalisme brut et empathique, au moins autant que dans ses autres délires. Et puis, Pook également à Wong Kar-wai, réalisateur hongkongais primé du prix Lumière en 2017, si je ne m'abuse, j'ai un doute maintenant en le disant, dont tous les films sont projetés, les moins connus en Europe, comme le très fameux et très beau In the Mood for Love, qu'il me tarde de voir tant il m'est conseillé de tous les côtés depuis des années. Et puis, un autre conseil plus corporate et sans rapport avec le cinéma, c'est de ne pas manquer de suivre le week-end prochain les aventures de Transition au festival Longueur d'onde à Brest. Voilà, il faut donc suivre avec attention tout ce que publiera l'excellente com de Transistor. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les trois, Thomas, Antoine et Nathan, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour parler entre autres de Dali et du Molière imaginaire. Ce sera directement disponible, je vous rassure, je dirai juste Dali la semaine prochaine.
C'est
oui, ce sera directement disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et le transistor.